il ne sera plus question du péché, et là c'est vraiment le repos qui sera découvert.
La fête de Pâques, et nous lisons que verset 5 est le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs et la Pâque à l'Éternel, premier mois. Un calendrier qui démarre à ce moment-là. Donc ça semble quelque chose de bien important. C'est comme si c'est un nouveau départ, quelque chose qui n'existait pas avant et qui existe maintenant. Quand est-ce que cette Pâque a eu lieu? Ça veut dire Pâque, ça veut dire passer, action de passer par-dessus. Quand est-ce que la Pâque a été instituée? On retrouve cela dans le livre de l'Exode au chapitre 13. Quelle est la situation? Une situation terrible. Le peuple choisi de Dieu se trouve dans un esclavage terrible, en Égypte, sous la domination d'un roi qui ne veut pas de Dieu, qui s'oppose positivement à Dieu, qui veut garder ce peuple à son service, sous son autorité. Dieu qui aime ce peuple veut l'en sortir. Et malgré les avertissements, ce roi s'endurcit et la mort va régner dans ce pays. Tous les premiers garçons en particulier vont mourir. Le peuple d'Israël est là, dans ce pays de la mort. Comment vivre dans ce pays de la mort? Impossible, puisque il est dit que Dieu va passer et faire mourir tous les premiers garçons. Si, il y a une solution. Dieu a trouvé une solution. Il dit cela en secret à ce peuple choisi. Si tu mets du sang, le sang d'un agneau sur les portes de ta maison, mon ange qui vient pour tuer verra le sang et passera à l'autre maison. Voilà le moyen que Dieu a choisi pour que ceux qui devaient mourir, les premiers garçons qui devaient mourir, celui qui est en quelque sorte le premier garçon, la fierté du père, celui qui a la meilleure éducation, celui qui va prendre la succession, celui qui finalement la vie qui continue, vous doit mourir. Dieu dit, si tu mets du sang, la mort ne passera pas dans la maison. Mais celui qui doit mourir aura la vie. Et c'est comme une vie qui redémarre. Celui qui devait mourir va vivre. Et c'est par le sang d'un agneau. Or, le Nouveau Testament nous apprend qu'il y a un agneau préconnu dès avant la fondation du monde, dont le sang a coulé. Et ceux qui croient dans ce choix de Dieu pour le salut, pour délivrer justement ceux qui méritent la mort, ceux qui croient sont rachetés par le sang de cet agneau. Alors voilà la Pâque qui est là pour la délivrance de ce peuple. Ça va être le début, un nouveau départ pour ce peuple qui va quitter l'esclavage, qui va aller bientôt dans le pays ruisselant de lait et de miel, un pays où il fait bon vivre. Voilà un départ. Et le Nouveau Testament nous apprend que celui qui croit au Seigneur Jésus peut avoir un nouveau départ. Grâce au sang versé à la croix du calvaire par Jésus-Christ. Alors, un nouveau départ. Eh bien oui, pour nous ici qui avons cru au Seigneur Jésus, il y a une vie avant et il y a une vie après. Après ce moment merveilleux où Jésus est entré dans ma vie, est entré dans votre vie, c'est le début, un nouveau début. Et c'est ce que nous trouvons donc dans cette fête.
Dans Exode 12, il y a quelque chose qu'on pourrait souligner en rapport avec la Pâque dans son application aujourd'hui. Je lis Exode 12 au verset 26. « Et quand vos enfants vous diront, que signifie pour vous ce service ? Il arrivera que vous direz, c'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel qui passa par-dessus les maisons du fils d'Israël. Que signifie pour vous ce service? En rapport avec ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, et le souvenir, le mémorial qu'il nous a laissé de son œuvre, quand nos enfants, quand la jeune génération, c'est ceux qui nous suivent, le voient, en sont les témoins, et qu'il nous interpelle. Qu'est-ce que signifie pour toi ce service? Ce matin, papa, tu as été au culte, tu as pris la scène, mais qu'est-ce que c'est pour toi? Je dis bien pour toi, pour vous, ce service. Est-ce que notre attitude vis-à-vis du repas du Seigneur, qui nous a laissé comme souvenir de son œuvre, est-ce que notre attitude, notre appréciation est à tel point convaincante pour nos enfants qu'ils s'en approcheront eux aussi quand l'âge sera là? Et c'est quelque chose qui va nous interpeller.
Alors on a l'histoire d'un enfant qui va à la Pâque. On le lit dans l'évangile de Luc, au chapitre 2. Un enfant qui a grandi, Luc 2, verset 41. Et ses parents, les parents du Seigneur Jésus, les parents de l'enfant Jésus, ses parents allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Et quand il eut 12 ans, comme ils étaient montés à Jérusalem selon la coutume de la fête, et qu'ils avaient accompli les jours de la fête, comme ils s'en retournaient. Voilà, à 12 ans, il va à la fête avec ses parents, et notre frère a mentionné tout à l'heure qu'il y a trois grandes fêtes, en fait, dans Exode et Deutéronome, c'est justement la Pâque, la Pentecôte et les tabernacles. En fait, c'est les trois où il fallait venir à Jérusalem. Et la première, c'est la Pâque. Et il venait chaque année. Et voilà cet enfant de 12 ans. Et un jour, plus tard, vers 30 ans, il rencontre Jean le Baptiseur. Et Jean le Baptiseur dit de lui, chapitre 1 de l'évangile de Jean, il voit Jésus venant à lui et dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est une référence directe, forcément, à la Pâque. Et le Seigneur va célébrer la Pâque. Pour tout le monde, la Pâque, c'est le souvenir de ce qui s'est passé. C'est le souvenir de ce sang qu'on a appliqué sur la porte et qui, au fond, a sauvé un jour la vie. Mais pour le Seigneur, c'est pas vraiment un souvenir, c'est aussi une anticipation. Pour lui, c'est très fort, parce que pour lui, célébrer la Pâque, c'est penser déjà à ce qu'elle va signifier. Et on ressent son émotion dans Luc, chapitre 22. Luc 22, 7, et le jour des pains sans levain dans lequel il fallait sacrifier la Pâque arriva. Là, on voit que la fête des pains sans levain et la Pâque, c'est une seule fête. Elle est vraiment, c'est très très lié, c'est ensemble. On utilise l'un pour l'autre. Le jour des pains sans levain dans lequel il fallait sacrifier la Pâque arriva. Il envoya Pierre et Jean disant, allez, apprêtez-nous la Pâque afin que nous la mangions. Et puis, verset 14, et quand l'heure fut venue, il se mit à table et les 12 apôtres avec lui, et il leur dit, j'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre. Pour lui, vraiment, cette Pâque va signifier non plus un souvenir, mais l'anticipation de ce qu'il va faire. Et ce qui se passe, c'est que il semble que c'est le jeudi soir, entre les deux soirs, l'expression entre les deux soirs, qui est peut-être un peu technique, qui doit vouloir dire entre le coucher du soleil et la nuit profonde, je crois, hein. Donc, probablement jeudi soir, il semble que le vendredi de la Passion soit en fait le 15e jour, et qu'ils aient pris la Pâque, eux, peut-être un jour en avance, puisque le Seigneur Jésus est mort, lui, le vendredi après-midi, la journée pendant laquelle les Juifs, eux, voulaient sacrifier la Pâque. Il nous est dit, ils ne voulaient pas rentrer chez Pilate, ils ne voulaient même pas se souiller, eux, pour rentrer chez Pilate, dans Jean 18, ils ne voulaient pas se souiller en entrant dans le prétoire, parce qu'ils allaient célébrer la Pâque. Jean 18, 28, ils amènent Jésus chez Caïphe au prétoire, c'était le matin, donc le vendredi matin, et eux-mêmes, ils n'entrèrent pas au prétoire afin qu'ils ne fussent pas souillés, mais qu'ils puissent manger la Pâque. Donc, ils voulaient manger la Pâque ce vendredi-là, et en fait, c'est justement ce jour-là que l'agneau de Dieu, le vrai, va être offert.
Et souligner le rôle et l'importance de l'enfant. Dans le repas du Seder chez les Juifs, la personne centrale, celle sur laquelle se retournent toutes les générations, il y a le grand-père, la grand-mère, les enfants, c'est l'enfant. C'est à lui qu'on s'adresse. C'est au travers de lui que va se passer la transmission de la parole et de la signification de la Pâque. C'est lui l'élément central. Parce que les Juifs savent très bien que les choses se transmettent de génération en génération. Et je voudrais raconter une histoire qui n'est pas biblique, mais qui est assez intéressante pour les enfants qui sont ici ou les jeunes. Ça se passe donc en Égypte, au moment où, comme en Exode 12, il y a cette Pâque. Et puis c'est dans une famille, donc une famille de Juifs. Et puis il y a là un petit garçon qui est l'aîné, on lui a expliqué tout ce qu'il fallait faire, il était au courant de ce qu'il fallait sacrifier, l'agneau pascal, répandre le sang, etc. Et cet enfant n'arrive pas à dormir, il n'arrive pas à trouver le sommeil. Il se retourne dans son lit, et puis il va voir son papa, il va lui dire, écoute papa, j'ai bien compris tout ce que tu m'as dit, mais est-ce que tu as fait ça, tu es sûr? Son papa lui dit, mais oui, mais tu fais pas de soucis, j'ai demandé à mon serviteur de le faire, c'est celui en qui j'ai confiance, je suis sûr qu'il l'a fait. Le petit garçon va se recoucher, et puis, de nouveau, il y a des cauchemars, il dort pas. Il va revoir son papa. Il lui dit, écoute papa, tu m'as bien dit tout ce que tu m'as dit, mais moi je ne l'ai pas vu, j'aimerais bien voir si le sang a bien été répandu. Alors son papa lui dit, ben écoute, tu vas venir avec moi et puis tu vas voir. Et il sort de la maison, il regarde, et ça n'avait pas été fait. Le serviteur avait oublié. L'erreur est humaine. Et qu'est-ce qui se serait passé? L'ange exterminateur serait passé et aurait jugé cette famille par ce petit garçon. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement parce qu'on fait partie d'une famille chrétienne que l'on est sauvé. C'est pas parce qu'on a reçu un enseignement et qu'on va aux réunions et qu'on suit papa et maman dans les différents... On a parlé du dimanche, n'est-ce pas, et puis des autres réunions. Vous voyez, c'est une histoire solennelle. Ce sang versé, il faut se l'approprier. Et seuls ceux qui sont à l'abri de ce sang sont sauvés.
Je voudrais m'adresser à tous les enfants que je vois là-bas sur les sièges, parce que ce qui vient d'être dit est excessivement important. Exode 12, quand vos enfants vous diront « Que signifie pour vous ce service ?» Chers enfants, est-ce que vous posez des questions à vos parents, à vos moniteurs, aux monitrices d'école du dimanche ou de camp de vacances, de camp biblique? Il faut les poser. Nous sommes sûrs que vous avez beaucoup de questions à poser et que peut-être parfois vous n'osez pas les poser parce que vous penseriez peut-être que c'est idiot, que ça n'en vaut pas la peine. Mais ça en vaut la peine. Nous venons de voir Jésus à 12 ans au temple, que faisait-il? Écoutant et interrogeant les docteurs de la loi. Si lui-même, Jésus, à 12 ans, a pris la peine dans le temple d'écouter et d'interroger, vous en avez tout autant le droit. Profitez-en. C'est probablement à votre âge, au temps de l'enfance, au temps de l'adolescence, que vous retiendrez le plus, parce que c'est à votre âge que votre intelligence est la plus développée. Cette fois, dans le chapitre 12 du livre de l'Exode, il est question de manger. Vous mangerez, cette fois. C'est une insistance. Il ne s'agit pas de manger à la va-vite. La scène du Seigneur, ce n'est pas un fast-food. Il faut prendre le temps de réfléchir, de manger graduellement, de comprendre, de sonder les souffrances du Seigneur Jésus, pour qu'en retour, de nos cœurs, de vos cœurs d'enfants déjà, puissent monter vers lui des chants de louange, de reconnaissance et d'adoration. Alors il faut manger de la nourriture de votre âge, bien évidemment, et c'est pour cela que vous avez des parents, des moniteurs, des monitrices. Profitez-en, posez des questions, même si elles vous paraissent idiotes. Il n'y a jamais de questions idiotes quand on parle du Seigneur Jésus. Et petit à petit, vous comprendrez le désir du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi.
Exode 12, on ne peut pas ne pas penser à 1 Pierre 1. Dans Exode 12, il est donc question de l'institution de la Pâque. Et l'accent est mis sur ce sang de l'agneau qui va être mis sur les poteaux et les linteaux de la porte. Et il est dit dans au verset 13, « Le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang et je passerai par-dessus. » Et dans 1 Pierre 1, au verset 18, il est dit, « Vous avez été rachetés de votre vaine conduite, non pas qui vous avait été enseigné par vos pères, non pas par des choses corruptibles de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Alors on revient à Exode 12, l'agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde. Dans Exode 12, on choisissait un agneau qui était sans défaut, on le mettait de côté, on le gardait, il était préconnu. Et puis c'est cet agneau-là qui était préconnu, préparé, qui était sans défaut, qui était sacrifié et dont le sang était mis sur les poteaux et le linteau de la porte. Alors, il y a bien une application très claire dans la première épître de Pierre par rapport à Exode 12. Et puis, comment on devait manger cet agneau? Au verset 11 d'Exode 12, vous le mangerez ainsi, vos reins saints, vos sandales à vos pieds, votre bâton à votre main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque à l'Éternel. On le mangeait en étant prêt pour le voyage, avec la ceinture mise, le bâton à la main, on le mangeait sans s'attarder, parce qu'on allait partir. Et puis quand on regarde dans 1 Pierre 1, verset 13, c'est pourquoi ayant ceint les reins de votre entendement, votre compréhension alertée, prête, les reins saints de votre entendement, étant sobre, vous êtes prêts à partir. Vous espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Des gens qui sont prêts. Dans 1 Pierre 1, il y a une illustration pour aujourd'hui de ce que nous parle la Pâque dans Exode 12. Et puis, il est dans ce qu'on a dit aussi que lié à la Pâque, il y a la fête des pains sans levain dont on va parler un peu plus. Et au verset 15 de Exode 12, il dit, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. Et dans 1 Pierre 1, eh bien, il est dit, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, soyez saint car moi je suis saint. Une vie séparée du mal. Et alors, il y a peut-être encore une question qui a été posée par les enfants, qu'on lit dans Exode 13. C'est pas tellement la question qui est portée, c'est l'enseignement du Père à ses enfants. Il y a eu la Pâque, il y a eu le jour des fins sans levain, et l'enfant va, il faudra lui raconter les choses, verset 8, « Tu raconteras ces choses à ton fils en ce jour-là, disant quoi ? J'ai appris ceci, je dois l'appliquer, je dois... » Non, la réponse, c'est à cause de ce que l'Éternel m'a fait quand je sortis d'Égypte. C'est la réponse à ce que l'Éternel m'a fait, non pas ce qu'il a fait d'une façon globale, mais ce qu'il m'a fait. Alors il y avait, que signifie pour vous ce service? Quel en est vraiment le sens? Et la réponse, c'est voilà ce qu'il m'a fait. Alors parce qu'il s'est offert pour moi, parce qu'il a donné sa vie, parce qu'il m'a racheté, alors parce qu'il m'a fait cela, voilà pourquoi je fais ces choses.
Donc le sang était en dehors de la maison, l'agneau était à l'intérieur. Mais tout d'abord, avant cela, il y avait cette... C'est qui nous dit qu'il fallait tenir en garde 4 jours l'agneau. Et combien ça nous invite ainsi à suivre le Seigneur Jésus. 4 jours, 4 évangiles qui nous révèlent ainsi toutes ses perfections. L'agneau devait être parfait, c'est d'ailleurs mis à la note, un agneau parfait. Alors, on découvre avec joie, c'est une fête, les perfections de Christ pendant son ministère. Tout était parfait. On comprend que... Il dira, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Dieu est satisfait. Mais alors, il faut continuer le chemin, il faut venir où on va l'égorger, la croix. Ça nous réjouit de voir ainsi ce sang qui va être versé, comme on l'a rappelé pour nous. Dieu voit le sang est dehors. Il est constamment aux yeux de Dieu, puisque la parole nous révèle même que Christ est remonté avec son propre sang dans le ciel pour... Nous donnons ainsi une rédemption éternelle. Mais il faut continuer aussi. Alors dans la maison, c'est l'intimité, c'est une communion intime, et cet agneau rôti au feu, la communion des souffrances de Christ, entrée dans ce que Christ a connu sur la croix, subissant ainsi le jugement de Dieu dans notre place. Le feu, l'autel de la croix, Dieu ainsi a fait tomber sur Christ, ce feu, et ainsi nos péchés ne sont plus à ses yeux. Christ a porté pour nous ce jugement. Il y a aussi, donc le sang est placé là, et bien sûr, nous allons parler des pains sans levain, et des herbes amères. Christ a été ce vrai pain sans levain, mais nous sommes invités ainsi à nous nourrir de ce pain. C'est notre responsabilité, je n'entrerai pas dans les détails puisqu'on va les voir.
Il y a 7 des pains sans levain, sont 2 fêtes liées ensemble. La fête des pains sans levain dure 7 jours, une semaine. Il y aura une autre fête aussi qui dure une semaine, c'est la fête des huttes, des tabernacles, qu'on verra cet après-midi. Une semaine, c'est on peut dire, quelque chose de complet, puisqu'à la fin de la semaine, une nouvelle semaine repart. Donc, ça peut vraiment nous donner la signification, Le jour de Pâques, c'est la nouvelle naissance, c'est notre départ avec le Seigneur Jésus. Une semaine, ça veut dire toute ma vie. Voilà, je commence une vie avec le Seigneur Jésus et ça va être pour toute la vie. Et nous voyons là une fête des pains sans le vin. Déjà, quand la Pâque a été instituée dans le livre de l'Exode, le début du chapitre 13 nous donne une indication sérieuse et importante. Donc voilà, des personnes qui sont vivantes sur une nouvelle base, sur la base de ce sang de l'agneau qui a été mis sur les portes. Une vie donc de personnes qui dont la base est le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix. Voilà, la base de notre vie nouvelle. Et au début du chapitre 13 de l'Exode, nous lisons « Et l'Éternel parla à Moïse disant « Sanctifie-moi ou mets-moi à part tout premier-né, donc celui qui vient de retrouver la vie en quelque sorte, tout ce qui ouvre la matrice parmi les fils d'Israël, tant les hommes que les bêtes, il est à moi. » Déjà voilà, cette indication, celui qui vient de passer par la nouvelle naissance, eh bien il ne va pas gérer sa vie comme ça, non. Il appartient à Dieu, il appartient au Seigneur, à celui qui a donné sa vie pour lui. Donc j'ai accepté le Seigneur Jésus, je suis à lui. Ce n'est pas un choix, c'est je suis à lui, parce qu'il me veut pour lui. Et alors, nous comprenons bien que si, à partir de ce moment-là, ma vie lui est consacrée, eh bien, c'est une vie qui n'est pas comme ma vie d'avant. C'est une vie qui est complètement différente, sur une base complètement différente. Et nous avons là cette expression des pains sans levain. Et quand on lit, justement, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 16, ce texte où il est parlé des trois grandes fêtes, dont il nous est parlé, dont on nous a parlé tout à l'heure, chapitre 16 du Deutéronome, il est dit au verset 4, « Il ne se verra pas de levain chez toi dans toutes tes habitations pendant 7 jours. » C'est-à-dire pendant toute ta vie, pas de levain. Alors c'est quoi le levain symboliquement alors? Pas de levain, c'est-à-dire que c'était pas bon, il fallait pas. Alors pour ma vie de chrétien, faut pas de levain, c'est quoi alors?
Alors le levain, on va essayer de le... Comme tu l'as dit tout à l'heure, la Bible s'interprète par elle-même. Donc on va essayer de chercher les passages du Nouveau Testament qui nous l'expriment. Ceci étant, la Pâque, le pain sans levain, c'était d'abord la notion d'urgence. Il y avait absolument une notion d'urgence, parce que la Pâque n'avait pas eu le temps de lever. On était parti dans l'urgence, on avait emporté sa Pâque non levée. Et ce message d'urgence, il faut le garder, même si la Bible elle-même va vraiment nous expliquer ce que c'est que le levain. Mais l'absence de levain, c'est d'abord une urgence. Et l'appel qu'on a fait tout à l'heure, il reste là. C'est l'urgence, c'est que l'application de ce sang, ce salut pour moi, mais c'est une urgence. Et chaque année, je dois me souvenir par les pains sans levain qu'il y avait urgence. Que le salut, c'est pas, oh ben on peut y penser l'année prochaine. Le salut, c'est maintenant. Appliquer le sang pour moi, c'est maintenant. Ça, c'est l'urgence. Le pain qui n'a pas eu le temps de lever. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on va réussir à comprendre à peu près le symbole du levain. Alors d'abord peut-être un Corinthiens 5, qu'on a évoqué tout à l'heure, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6, « Votre ventrie n'est pas bonne, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte tout entière? Ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car aussi notre Pâque, Christ, a été sacrifié. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice, et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de sincérité et de vérité. » Donc, première information, un levain de malice et de méchanceté. Et puis, en plus, c'est un principe qui se transmet. Un peu de levain fait lever la pâte tout entière. Donc, on sent ici le vin de malice, méchanceté. Malice, c'est peut-être ce que je dis des autres, hein, les mauvaises pensées que j'ai sur les gens, les mauvais commentaires. La méchanceté, c'est carrément ce que je fais de mal aux autres. Et puis, Évangile de Luc, chapitre 12, c'est le Seigneur Jésus qui donne aussi une clé. Évangile de Luc, chapitre 12, verset 1. « Cependant les foules s'étant rassemblées par milliers, de sorte qu'ils se foulaient les uns aux autres, il se mit avant tout à dire à ses disciples, « Tenez-vous en garde contre le levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Donc, levain des pharisiens, ça va être l'hypocrisie. Et puis alors, on a aussi... Marc 8, verset 15, on va avoir dans Marc 8, verset 15, il leur enjoignit disant, voyez, gardez-vous du levain des pharisiens, donc on a vu tout à l'heure, celui des pharisiens c'est plutôt l'hypocrisie, et le levain d'Hérode, c'était le roi le roi qui était placé là par les Romains, les Hérodiens, sont, sa secte, ou les gens, son partisan, sont un peu les gens qui recherchent peut-être justement les honneurs du monde, qui recherchent les belles positions, etc. Et puis on aura le levain des Sadducéens ailleurs, je crois que c'est Matthieu 16, verset 6. On passe un tout petit peu de temps là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on nous reproche parfois, hein, de faire de la symbolique dans l'Ancien Testament, mais jamais la démontrer. Hein, et alors on dit, oh mais ça c'est des interprétations, c'est vraiment typiquement le mouvement des frères, ça. Ils ont dit, le levain c'est le mal. Enfin, quand même, il y a une telle somme de passages dans le Nouveau Testament qui l'établissent, que ça semble pas être trop tiré par les cheveux, hein, si on passe l'expression. Donc le dernier, ça serait, je crois, Matthieu 16, verset 6. Voyez, soyez en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens. Les sadducéens, c'est ceux qui croyaient pas à la résurrection, ceux qui croyaient pas aux anges. Donc ça pourrait être le levain de ceux qui remettent en cause la Bible, qui remettent en cause l'interprétation. Et puis tu dis verset 12 de Matthieu 16, c'est ça? Matthieu 16, verset 12. Alors ils comprirent que ce n'était pas contre le levain du pain qui leur avait dit d'être en garde, mais contre la doctrine des pharisiens et des sadducéens.
Versets 18 et 19, c'est exception à la règle. De quel levain s'agit-il?
Dans la parabole du royaume, hein, qui fait lever la pâte tout entière. Il y a deux interprétations, forcément il y en a bien plus que deux, mais il y aura celle qui prend le levain comme principe de mal, et qui dira effectivement, le levain c'est malheureusement diffusé dans la chrétienté, dans l'église, et puis ça a un peu contaminé tout. Et puis d'autres qui verraient alors le levain sur le plan plus neutre, physique, que c'est un principe qui se développe, qui fait grandir une pâte, et qui verrait dans ce cas-là le développement positif de l'église.
De la fête des pains sans levain, il s'agit donc aussi, on l'a compris, d'une vie de séparation avec le mal. Quand tout à l'heure on a parlé du fait que l'Israélite disait « Je fais cela parce que l'Éternel m'a délivré », c'est une réponse de celui qui est délivré pour plaire à celui qui l'a délivré. Et peut-être que parfois on peut imaginer une vie de séparation avec le mal, une vie où on s'éloigne peut-être de certains plaisirs, comme une contrainte. C'est vrai que l'homme religieux peut tout transformer en contrainte. Par exemple, pour le sabbat, la religion juive a transformé le sabbat non pas en un jour de repos, mais en un jour de contrainte. On a peur de faire le mal, donc on ne bouge plus. Et puis, quant à la fête des pains sans levain, Caroline, ma fille, travaille avec une juive qui lui a expliqué, mais c'est terrible, quand le jour de fête des pains sans levain arrive, alors c'est un travail épouvantable, il faut nettoyer la maison jusque dans tous les recoins, on a très peur qu'il y ait un peu de levain quelque part, et on va même nettoyer la salle de bain. Elle dit, mais pourquoi tu fais la salle de bain, tu manges à la salle de bain? Elle lui a dit, non, mais on ne sait jamais. Et alors on a transformé ce que Dieu donne pour le bien en une contrainte. Et pourtant, se séparer pour Dieu dans un bon sens, c'est une joie, c'est une fête. Célébrons la fête. Et quand on lit dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 30, un moment de réveil du peuple, au verset 21, les fils d'Israël, donc 2 Chroniques 30, verset 21, les fils d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie. C'est une fête, c'est une source de joie, c'est un bonheur que de vivre en désirant se séparer du mal pour Dieu.
Pratiquement, dans Exode 12, les fils d'Israël sont sortis d'Égypte. Ils n'avaient pas eu le temps de faire lever la pâte. Donc le levain était quand même mélangé à la farine. Mais il perd son effet à la cuisson. Le mal, on ne peut pas se l'arracher de notre être intérieur. Mais l'effet pratique de ce que Jésus a fait pour nous, lorsqu'il est mort pour nous, ce jugement qui est tombé sur Jésus, a cet effet alors de supprimer la fonction de ce levain. Et il devient inopérant. Et mettons-nous alors, je dirais à l'abri, mais mieux que ça encore, dans un contexte de ce que Jésus a fait pour nous, bien le réaliser dans notre cœur, dans notre être intérieur, pour ne pas se laisser perturber par quelques mauvaises pensées qui nous a surgi dans notre esprit il y a 5 minutes. Non, Jésus est mort pour nous, et son œuvre enlève totalement ce que le péché, dont on ne peut pas se séparer totalement, pratiquement, il est lié à notre être, mais il n'a plus son effet si nous sommes mis à l'abri du sang de Jésus et de son œuvre qu'il a accomplie pour nous libérer totalement de cet effet dévastateur du péché.
Il semblerait d'ailleurs qu'il y ait une contradiction dans notre chapitre 23. Au verset 6, il s'agit de fêter la fête des pains sans levain, et à l'occasion de la fête des semaines, de la fête des Pentecôtes, au verset 17, il est question de deux pains, vous les cuirez avec du levain. Il semblerait qu'il y ait une contradiction. D'une part, il faut s'éloigner du levain, il faut éviter le levain, et d'autre part, à la Pentecôte, tout d'un coup, il faut cuire avec du levain. Eh bien, c'est le rapport entre nos privilèges et nos responsabilités, comme notre frère Freddy vient de le souligner. Notre énorme privilège, c'est que le sang de Christ couvre tout. C'est la signification de la Pâque. Je passerai au-dessus. Nous sommes au bénéfice de l'œuvre de la croix, nous sommes au bénéfice du sang qui a été versé. En Christ, pour tous ceux qui se confient en lui, tous nos péchés sont pardonnés. Mais partant de là, notre responsabilité, c'est d'essayer de vivre en sainteté de vie, en nouveauté de vie, et d'éviter le levain de la malice, de la méchanceté, du pharisaïsme, du légalisme, de la complaisance avec le monde, de l'incrédulité. Il faut se cadrer sous le regard du Seigneur Jésus. Et partant de là, nous devons avancer et apprendre que chaque jour nous avons des fautes à confesser, bien évidemment, nul n'est parfait. N'oublions pas que notre vieille nature est toujours en nous, même si elle a été crucifiée avec Christ, mais il y a quand même toujours une lutte interne. L'Épître aux Galates nous en parle suffisamment. Il est question de marcher par l'Esprit, parce que nous avons à marcher en nouveauté de vie, mais nous avons aussi à refouler les œuvres de la chair qui sont innombrables. Il suffit de lire Galates 5, 22 pour réaliser de quoi nous sommes capables. Et nous comprenons bien que ces trois fêtes du printemps, finalement, elles sont intimement liées à la fête de Pâques, préfiguration de l'œuvre de la croix. Tout est accompli. Partant de là, essayons de vivre en sainteté de vie. Soyez saints comme je suis saint, dira l'Éternel. Et nous réalisons toute la difficulté de cela. Sans qu'il y ait de code de loi, comme Jean-Luc l'a souligné, il convient quand même, selon notre responsabilité, d'éviter le mal. Et la jonction entre la fête des pains sans levain et la fête des prémices qui suit, nous la trouvons peut-être en Romains 12 et au verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie, ayez en horreur le mal, fête des pains sans levain, mais tenez ferme au bien, fête des prémices, où la gerbe sera tournoyée devant l'Éternel, et où, après avoir fait un effort de s'éloigner de tout ce qui pourrait déshonorer le Seigneur Jésus, ayez en horreur le mal, mal moral, mal doctrinal. On entre de plein pied dans ce qui plaît, dans ce qui fait du bien, dans ce qui rafraîchit, dans ce qui désaltère, la gerbe des prémices, la fête des prémices. On est attaché au bien, on fait du bien à Dieu en parlant de son Fils lors de l'adoration dans nos cultes, et on se fait du bien à nous, parce qu'on est continuellement rafraîchi par la grâce de Dieu et par sa bonté qui demeure à toujours.
Juste encore une petite chose en rapport avec la liaison entre la Pâque et les pains sans levain, et dans son application pratique, en 1 Corinthiens 5, c'est à la fin du verset 7e, on a déjà lu ceci, mais je souligne un petit mot, le début du verset 8. Donc la fin du verset 7 nous dit, notre Pâque, Christ, a été sacrifié, sacrifié. C'est pourquoi célébrons la fête. Ce c'est pourquoi a de l'importance. Si Christ, notre Pâque, n'avait pas été sacrifié, une vie de sanctification, je dirais de consécration, une vie monacale même, ne servirait à rien. C'est en conséquence de la que notre Pâque, Christ, a été sacrifié, en conséquence de l'œuvre de la croix qui est accomplie, nous pouvons alors réaliser ce que signifie la fête des pains sans levain.
Le Seigneur Jésus a été le vrai été sans levain. Il n'y avait pas en lui de péché, il n'a pas commis de péché. Alors contemplons notre Seigneur Jésus-Christ dans sa perfection. Peut-être on pourrait se dire, mais comment je vais réussir, moi, à vivre une vie sans péché? J'essaye, j'y arrive pas. Alors, on vous a donné quelques clés, mais ne pensez-vous pas, si cette fête est tellement liée à la Pâque, si nous avons le souvenir, chaque jour, du prix payé par le Seigneur Jésus pour moi, est-ce que cela ne va pas engager mon cœur pour lui? Est-ce que cela ne va pas m'aider à avoir une vie consacrée pour lui et nécessairement séparée du mal? Nous souvenir vraiment de ce qu'il en a coûté. Notre Seigneur Jésus-Christ qui a payé pour moi, qui a accepté d'être fait péché pour moi, de compter tous mes péchés comme s'il les avait commis, être condamné à cause de cela. Mais le Seigneur Jésus n'est pas resté dans la mort. Le Seigneur Jésus, oui, il a été vraiment enseveli. Paul le dit, il est mort, il est enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité. Le Seigneur Jésus est ressuscité. Le Seigneur Jésus est apparu à plusieurs, même 500 personnes à la fois. Le Seigneur Jésus est vivant. Et nous trouvons donc à partir du verset 9 une nouvelle fête. La fête, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous en aurez fait la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe des prémices de votre moisson. Et il tournoiera la gerbe devant l'Éternel, c'est-à-dire il la balancera devant l'Éternel. Mettre en évidence, montrer cette gerbe, c'est la première, c'est cette belle gerbe-là qui commence. Et c'est vrai que le Seigneur Jésus est ressuscité. Quand vous serez entrés dans le pays, c'est pas lorsque le peuple est encore dans le désert entre l'Égypte et Canaan qu'il va pouvoir faire la moisson. Il n'y a pas de moisson dans le désert, mais il y en a dans le pays promis. Un pays où tout ruisselle, la bénédiction de Dieu est là. Oui, tout est vie dans ce pays. Et c'est vrai qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais quand on lit dans le Nouveau Testament, on se rend compte que ce pays promis a aussi une signification pour nous chrétiens. Nous ne passons pas notre vie à suivre le Seigneur Jésus comme un personnage historique qui a une vie parfaite, dont la vie s'est terminée sur la croix. Mais nous accompagnons en quelque sorte, nous vivons avec un Sauveur ressuscité et vivant. Et l'occupation de mon âme, de notre âme aujourd'hui, est avec un Christ vivant. Quand je parle au Seigneur Jésus, je ne parle pas à ce Jésus de Nazareth qui a marché sur la terre. Je parle à quelqu'un de vivant, de mon Sauveur vivant. Et dans cette relation, il y a des secrets qui se disent. Il y a une relation, une communion qui se vit. Et cela nous parle de ce pays promis. Et là, je peux découvrir celui qui est ressuscité et qui est vivant, notre Seigneur, qui a été ces prémices. Et on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15, où on a fait allusion en tout cas, Jésus-Christ, les prémices. Et il y a d'autres, après lui, qui vont aussi ressusciter et qui auront la vie, c'est tous ceux qui croient. Voilà un peu de quoi nous parle cette fête, mais c'est tellement important. Notre Seigneur Jésus est ressuscité et vivant.
Pourrait-on définir ce qu'est la moisson exactement? Parce que aujourd'hui, la moisson est complètement dénaturée. On passe de la moisson au battage directement sans mettre le blé en gerbe. Peut-être il faudrait rappeler ce qu'était la moisson.
Je suis un des seuls qui a des racines paysannes, alors je vais essayer de répondre. Même si je n'ai pas connu moi-même la moisson sans le battage, donc il s'agissait de couper le blé à la faucille et de le lier en gerbes, et effectivement un peu plus tard on battait ces gerbes pour en extraire les graines de blé. Donc on avait comme ça des gerbes, des paquets de tiges de blé liées ensemble, et donc c'est l'une d'elles que l'on faisait tournoyer dans cette gerbe des prémices. Les premiers fruits, les premières gerbes qu'on a récoltées, on en prenait une pour la présenter à l'Éternel.
Moisson a deux significations dans les évangiles, dans la parabole des moissonneurs, donc en Matthieu 13, le Seigneur dit, la moisson c'est la consommation du siècle, donc c'est le jour du jugement, c'est où tout sera mis en lumière, où les méchants seront détruits, et où les justes entreront dans le royaume. Il y aura cette séparation des justes et des mauvais et des méchants, dans la fin de la parabole de l'ivraie. Mais elle a aussi une autre signification. C'est Jean 4 qui nous dit alors cette signification très positive de la moisson. Vous lire les versets, depuis le verset 35 de Jean 4. Ne dites-vous pas, vous, il y a encore 4 mois et la moisson vient. Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les campagnes, car elles sont déjà blanches pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et assemble du fruit en vie éternelle, afin que, et celui qui sème, et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci est vérifiée la vraie parole, l'un sème et un autre moissonne. Moi je vous ai envoyé moissonner ce à quoi vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Donc on voit là la moisson qui est prise comme une image des réponses à l'évangile. L'évangéliste qui publie par un message ou par la distribution de traités ou d'autres moyens, il voit souvent rien comme réponse. Il sème. Et c'est d'autres alors qui vont moissonner, qui vont constater le fruit produit par le message évangélique qui avait été communiqué peut-être bien des semaines, voire même bien des années auparavant. Une chose surprenante dans la parole du Seigneur en Jean 4, il y a encore 4 mois et la moisson vient. Je ne sais pas comment ça va là-bas en Israël, mais ici dans nos pays d'Europe occidentale, 4 mois avant la moisson, eh bien, le blé a peut-être une longueur de 5 cm, guère plus. Donc 4 mois avant la moisson, c'est au mois de mars. Donc cette parole du Seigneur, énigmatique, nous montre une vision anticipée de la moisson future. Levez vos yeux, regardez les campagnes, elles sont blanches pour la moisson. Pratiquement, c'est pas possible que ce soit le cas. Mais le Seigneur envisage un tableau futur. Il y en a les signes, il y en a des marques déjà. Donc, soyez réconfortés, soyez encouragés. Continuez à semer, la moisson est là. Et ceci doit être aussi un encouragement pour chacun dans un témoignage évangélique qu'il peut rendre autour de lui, même dans notre vie de chaque jour. Si je parle à mon voisin de l'évangile du Seigneur et que je m'attende à ce que immédiatement la réponse soit là et que je me réjouis parce qu'il y a une âme qui est amenée au Sauveur, eh bien, je serai souvent déçu. Eh bien, le Seigneur va encourager ses disciples. Vous semez. C'est un autre qui moissonnera beaucoup plus tard. Mais pour le moment, voyez les choses comme si elles étaient déjà arrivées. C'est déjà blanc pour la moisson. Tout est prêt. Et soyez diligents pour accomplir le travail de chaque jour. Et pour nous aussi, soyons diligents pour être des témoins du Seigneur dans tous les domaines dans lesquels le Seigneur nous montre qu'il y a quelque chose à faire pour lui. Eh bien, quand la moisson viendra, ce sera d'autres peut-être qui récolteront. Mais un jour, tout sera manifesté. Il y aura de la joie. Ensemble, ils se réjouissent ensemble. Nous pensons alors au psaume 126, je termine par cette citation, en quant à la moisson. Psaume 126, au verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Il va en pleurant, portant la semence qu'il répand. Il revient avec chant de joie, portant ses gerbes. » Notons verset 5, c'est l'ensemble de ceux qui sont invités par le Seigneur à être des ouvriers. Le verset 6, c'est lui, Jésus lui-même. N'est-il pas allé en pleurant? On voit ses larmes dans les évangiles. Portant la semence qu'il répand, il revient. On pourrait dire il reviendra, mais il revient, il est venant. Je viens bientôt, avec chant de joie, portant ses gerbes, ce sont les siennes.
Donc ce psaume 126 va bien nous aider à comprendre la symbolique des larmes, parce que je me sépare du grain que je sème, et je ne l'ai plus, il va mourir, il va être perdu. Et le chant de joie quand la gerbe arrive. C'est l'enseignement du Seigneur quand il dit aux Grecs qui voulaient le voir, si le grain de blé tombant en terre ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc on a un principe de cette semence qui doit mourir pour porter du fruit. Et 1 Corinthiens 15, qu'on a mentionné tout à l'heure, va nous permettre d'identifier à peu près notre fête des prémices avec ce principe de fruits et de résurrection. Donc, 1 Corinthiens 15, verset 35, « Mais comment ressuscitent les morts? Avec quel corps viennent-ils ? Insensé. Ce que tu sèmes n'est pas vivifié s'il ne meurt. Donc quand tu sèmes quelque chose, il faut d'abord que ça meure avant qu'il y ait la vie. Donc on commence à bien comprendre là. Mourir, vivre, c'est vraiment la résurrection. Quant à ce que tu sèmes, verset 37 de 1 Corinthiens 15, tu ne sèmes pas le corps qui sera, mais le simple grain de blé, comme il se rencontre, ou de quelque autre semence. Mais Dieu lui donne un corps comme il a voulu, et à chacune des semences son propre corps. Donc on a un principe d'un petit grain, c'est difficile d'imaginer une gerbe à partir d'un petit grain. Imaginez un épi à partir d'un petit grain. Et pourtant, il y a dans le grain tout le code génétique, tout ce qu'il faut pour faire un épi. Et ce grain va mourir et donne un épi. C'est ce symbole de résurrection. Au passage, un enseignement sur la résurrection. On se dit, mais comment nos corps seront ? À quoi je vais ressembler dans le ciel ? Eh bien, à la fois, je ressemble autant à ce que j'étais que ce qu'un épi ressemble à un grain. Et on sent bien qu'il y a de la même nature. On sent qu'il y a un lien énorme entre ce grain et cet épi. Mais comment on aurait pu imaginer l'épi en voyant simplement le grain? Donc on a à la fois le lien absolu entre ce que j'étais, mon corps, et puis ce que je serais, à la fois c'est moi, et puis à la fois c'est tout différent, c'est un épi par rapport à un grain. Et alors, pour encore plus cercler notre interprétation sur pourquoi la gerbe des prémices, alors ça serait vraiment cette résurrection, eh bien c'est l'expression de 1 Corinthiens 15, verset 20, juste avant. « Mais maintenant Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémices de ceux qui sont endormis. Car puisque la mort est par l'homme, c'est par l'homme aussi qu'est la résurrection des morts. Dans l'Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ, tous seront rendus vivants, mais chacun dans son propre rang. Les prémices, Christ. Puis ceux qui sont du Christ à sa venue, et ensuite la fin. » Donc, nettement, les prémices, c'est Christ ressuscité. Et puis, la résurrection, eh bien, elle aura lieu quand même en plusieurs étapes. Et on sait, d'après l'Apocalypse, qu'on a intérêt à avoir part à la première résurrection. Bienheureux celui qui a part à la première résurrection. Donc, la notion de prémices, c'est vraiment Christ qui va nous être ce premier ressuscité d'entre les morts, et qui va être cette puissance de vie qui nous entraîne nous-mêmes à une vie de ressuscité aujourd'hui, et puis qui sera aussi la base pour notre résurrection future si nous devons passer par le tombeau.
Gerbe était présenté devant l'Éternel le lendemain du sabbat. Le Seigneur Jésus est ressuscité le lendemain du sabbat, le premier jour de la semaine. Et cette gerbe tournoyée qui annonce les autres gerbes, qui annonce toute la moisson, annonce quelque chose qui est absolument nouveau. D'abord, il y aura une libation de vin. La libation, c'était on prenait du vin, on le versait avec le sacrifice, et le vin nous parle de la joie. Il y a une joie qui est nouvelle, quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Et puis, au verset 14, il y a une nouvelle nourriture qui va commencer. Vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni grain en épi, jusqu'à ce même jour, jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande à votre Dieu. Quelque chose qui est nouveau, qui s'ouvre avec une nouvelle nourriture, avec une joie nouvelle et renouvelée, avec quelque chose qui va aussi annoncer la suite, la fête de la Pentecôte, la fête au 50e jour, puisqu'on va compter à partir de ce moment-là. La résurrection du Seigneur Jésus est donc une ouverture, quelque chose de nouveau qui ouvre un chemin nouveau à la fois maintenant sur la terre et puis qui ouvre quelque chose de nouveau quand nous ressusciterons pour être avec lui.
Cette idée de moisson, on a fait allusion aux moissonneuses, milleuses, batteuses qui accomplissent toutes les opérations en un temps record. Hein. On voit ces immenses batteries. Il n'en était pas ainsi à l'époque que nous considérons. Je ne suis pas d'origine paysanne comme mon voisin, mais l'iconographie nous montre comment on faisait. De la main gauche, on saisissait une poignée de blé, et de la main droite, avec une faucille, on cisaillait. Et on mettait ensuite cette poignée de blé dans un panier. C'était une opération à la fois longue, extrêmement longue, et il fallait beaucoup de main-d'œuvre. Alors, il y a un enseignement. Dans Luc 10, il nous est parlé du Seigneur de la moisson. Et on peut rapidement voir ce qu'il nous est dit, sans trop prolonger, au chapitre 10 de Luc, au verset 2, ça rappelle un peu le passage que nous avons lu précédemment. « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. » Le Seigneur de la moisson a besoin d'aide, a besoin de bras, de mains, parce que le champ est là et l'œuvre, elle est presque individuelle. Encore une fois, on saisit de la main gauche et on cisaille de la main droite. Et je pensais à ce passage de 1 Corinthiens au chapitre 3, que nous connaissons bien, mais je vais lire rapidement. au chapitre 3 de 1 Corinthiens au verset 6, « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement de sorte que ni celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. » Et surtout au verset 9, « Car nous sommes collaborateurs de Dieu. Vous êtes le labourage de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce qui m'a été donnée. » Comme un sage archidé, je pose le fondement. Le Seigneur de la moisson a besoin d'ouvriers, parce que la moisson est mûre. Qui se lèvera pour collaborer avec le Seigneur de la moisson? Nous vivons une période à la fois solennelle et où nous voyons que nous sommes dans une période évidemment de déchristianisation. Nous avons besoin de gens. Le Seigneur a besoin de moissonneurs. Le Seigneur de la moisson a besoin de personnel pour venir moissonner cette récolte. Alors ce n'est pas la mécanisation, c'est du travail, c'est un appel qui est adressé à chacun d'entre nous.